En préambule de cet enseignement, je vais le dire tout de suite, cette conférence est incomplète et elle sera sujette certainement à des critiques légitimes. Elle est incomplète, je le dis tout de suite, parce que je parlerai peu de la dimension de fils et d'époux qui est pourtant nécessaire quand on veut aborder la question de l'homme. Je parle de l'homme masculin et je vais plutôt aborder le fait qu'il soit homme et le fait d'être père. Donc la question de fils et d'époux est volontairement mise de côté, ce qui rend la conférence incomplète. Incomplète aussi parce que le magistère de l'Église récent, et à ma connaissance, je ne suis pas un grand théologien, dans les traditions de l'Église, il y a peu de développement sur la question de la masculinité, à la différence du magistère récent, en particulier Jean-Paul II, avec Mulieris Dignitatem, la dignité de la femme suite aux élans féministes. Le magistère a apporté un éclairage. Ce n'est pas le cas du tout pour la question de la masculinité. Donc incomplète aussi à ce niveau-là. Incomplète aussi parce qu'à ma connaissance, le sujet de la masculinité, j'ai vu deux, trois thèses se balader, une thèse se balader là-dessus, dans les bons livres, est peu étudié. Parce qu'en général, on a un parti pris féministe, même quand on est des hommes, il consiste à saper l'autorité de l'homme et non à essayer d'en faire son apologie. Donc on ne développe pas ce sujet. En complète encore, parce que ma pensée à titre personnel, c'est celle que vous allez recevoir, est fort incomplète sur le sujet, et elle s'exprime de manière éparse et non synthétique. Donc je vous prie de m'excuser. Ça, c'est pour ce qui est de l'ordre d'incomplet. Ce qui est de l'ordre de la critique, c'est qu'il n'est pas bon aujourd'hui de parler de la fierté d'être un homme. Souvent, aussi, quand nous en parlons, les excès de tel ou tel point qui sont partiels peuvent amener à une forme de caricature grossière de l'homme de Cro-Magnon amélioré. Ça n'aide pas à parler de la masculinité. Je dirais aussi que l'hyper-féminisation de la société, suite à un féminisme mal compris des années 70, a rendu quasiment impossible, de manière saine, de parler à froid, sans polémique, de la question de la masculinité. Enfin, il semblerait aussi qu'il est impossible de parler d'une forme d'émancipation de l'homme vis-à-vis de la femme aujourd'hui, qui plus est, suite à tous ces abus d'agressions sexuelles, etc., etc., qu'on entend dans les médias, l'homme aujourd'hui bat sa coulpe, il a énormément de mal à aborder lui-même la promotion de sa masculinité. J'ajoute encore qu'une crise de la tradition, une crise de l'autorité, un mauvais féminisme et le lait ambiant du gender que nous commençons à boire fait que c'est très difficile de parler de la masculinité. Tous ces éléments-là sont des sous-bassements pour parler de mon deuxième point qui est la paternité, qui se réfère entre autres à la question de l'autorité du gouvernement et comme la famille traditionnelle, voilà, patriarcale est mise à mal. Et donc on a énormément de mal à parler de la paternité. J'ajoute que ce point est capital puisqu'il sape au niveau de la nature ce qui se répandait au niveau du surnaturel, c'est-à-dire les vocations au mariage, père, époux, vie consacrée, sacerdoce. Comme la paternité et la masculinité sapées en amont, les vocations sont atrophiées dans leur déploiement au niveau surnaturel. Donc voilà pour ce qui est partiel et voilà ce qui est pour sujet à critique qui peut-être vous fera crier, je l'accepte. Donc mon plan, c'est de vous parler d'abord de ce qu'est un homme, essentiellement, et de parler aussi ce qui est un père. Je le ferai à la mesure de ce que je sais, en particulier de l'observation de jeunes aussi qui discernent leur vocation, des hommes et des femmes, de voir, d'accompagner aussi des jeunes étudiants qui se posent la question d'être homme ou d'être femme et comment. Et puis aussi, pour une part, avec le donné biblique qui nous dit des choses sur être homme dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, être père aussi dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et une réflexion sur la Trinité, comment Dieu est père. Voilà. Alors, peut-être commencer à parler d'être homme. J'ai assisté récemment à une conférence sur le gender, voilà, qui était très bien. Mais ceci dit, on commence à élaguer de plus en plus les clichés, les stéréotypes, pour dire tel ou tel sexe ne doit pas être enfermé dans tel ou tel stéréotype. Mais le problème, c'est qu'on ne propose pas de chemin de construction pour un homme ou pour une femme. Le grand jeu aujourd'hui, c'est la déconstruction des stéréotypes, au risque de faire partir le bébé avec l'eau du bain, parce que ces stéréotypes ont construit quelque chose dans le temps qui était bon, c'était l'identité masculine et féminine, même si parfois ça peut être caricatural ou étroit. Et quand on y réfléchit plus profondément, il n'y a pas de réflexion philosophique sur ce qu'est l'essence de l'homme masculin. Donc je vais essayer, comme je peux, de vous donner des mots qui me semblent des mots qui ne sont pas exclusifs à l'homme masculin, mais qui pourraient l'être d'une certaine manière. Tout d'abord, si on regarde au niveau physique, il est clair que l'homme est émetteur. C'est lui qui émet la semence. Ce que je dis là va avoir des implications spirituelles. Hein, et humaines. Qui émet la semence, et la femme, de fait, est réceptrice. Alors, au Moyen-Âge, on pensait que c'était que l'homme qui donnait la vie. Maintenant, on a grandi avec les sciences biologiques, on sait que c'est les deux qui donnent la vie. Mais toujours est-il, il y a bien quelqu'un qui est émetteur et l'autre récepteur. Je caricature un peu, mais l'homme est plus situé vers le faire que vers l'être, et la femme est plus située vers l'être que le faire. Ça ne veut pas dire que les hommes sont des bourrins et que la femme ne peut pas faire quelque chose. Mais si vous regardez la construction physique d'un homme, il est plus taillé pour l'activité. C'est très clair. La puissance physique dure plus longtemps et elle est capable de faire des efforts, voilà, plus élevés. Parce qu'il est fait pour ça. Vous regarderez aussi que la femme est plus nourricière. Elle porte, elle peut porter la vie, et de fait, elle est nourricière dans ce qu'elle est elle-même. L'homme n'est pas nourricier dans ce qu'il est lui-même, il ne porte pas la vie, mais il doit faire un travail, un faire, quel qu'il soit, depuis nos prédécesseurs dans la chasse ou dans la cueillette, pour apporter la nourriture. Par contre, il est beaucoup plus dans la protection, dans le sens où sa force peut protéger la famille. La femme aussi protège l'enfant, mais l'homme va protéger la femme et l'enfant, parce qu'il a ce pouvoir, cette force. J'ajoute aussi que la femme, quand je dis ça, vous voyez bien qu'il faut mettre des nuances, mais je volontairement mets des inclinations, des points un petit peu plus forts pour l'homme pour montrer pour définir un peu ce qu'est l'essence masculine. La femme est plus tournée vers la forme d'intuition. Ça relève, non pas qu'elle n'est pas capable d'abstraction et d'intelligence conceptuelle, mais c'est parce que j'aimerais qu'on, pendant toutes ces conférences, qu'on médite ce verset et le verbe s'est fait chair. Jean chapitre 1 verset 14. La femme porte en elle le verbe fait chair, c'est la Vierge Marie, mais l'être humain dans la femme porte la vie, on pourrait dire, hein, voilà, un enfant. Très bien. L'homme ne porte pas la vie, mais sa manière d'accueillir la vie, c'est ce processus d'abstraction qui fait qu'il est distant par rapport à la femme, et non pas qu'il accueille la vie, mais qu'il va faire croître la vie pour en faire un homme. Vous voyez ? Ça veut dire que la femme, parce qu'elle porte la vie en elle, est tout de suite liée à la vie, quels que soient les types de vie qu'elle rencontre. Et donc elle a une approche beaucoup plus intuitive. Tandis que l'homme, puisqu'il a une forme de distanciation, il faut qu'il soit introduit par son épouse à être père. Il a une forme d'abstraction plus grande. On va y revenir. Il a une forme d'abstraction plus grande. Son appréhension des concepts et de la vie est plus abstraite. On pourrait dire qu'elle est plus froide parce qu'il a cette distanciation. C'est sa force et sa limite. On y viendra. D'une certaine manière, la femme est plus apte à un amour inconditionnel. Parce qu'elle porte en elle la vie, elle est plus apte à aimer la vie de manière inconditionnelle. Mais l'homme aime la vie parce qu'il a cette recul et cette abstraction de manière plus raisonnée. Ça ne veut pas dire que la femme est irraisonnée. Il y a quelque chose dans cette manière-là. D'une certaine manière aussi, la femme est plus de l'ordre de la nature. Et l'homme est plus de l'ordre de la culture. Ce qui n'est pas vrai. Il y a des femmes qui sont des grandes artistes, des grands intellectuels. Tout ça est vrai. Et on ne dissocie pas la nature et la culture dans un être humain. C'est tout un. Mais la femme porte la vie. Et l'homme, parce qu'il a une distanciation, apporte, on verra, la loi, la distance, le concept, il est plus de l'ordre culturel. On y verra, c'est la crise de l'homme. Parce qu'il est plus dur, à mon sens, d'être un homme que d'être une femme. Aujourd'hui, on va y venir. La femme est plus du côté de la douceur. Elle est le nid nourricier qui accueille inconditionnellement et qui aime, ne serait-ce que dans son sein. L'homme doit canaliser sa force. D'une certaine manière, il est plus grossier. Pour avoir travaillé dans le domaine des peintures, j'ai toujours vu effectivement que l'application féminine était plus pointue et plus précise. Les hommes n'arrivaient pas aussi bien en finesse que les femmes. C'est tellement vrai que les vestes des académiciens sont toujours faites par des dames. Vous voyez, parce qu'il y a un génie là. Bon, la femme est plus de l'ordre de la douceur et l'homme de la force. Très bien. Je vous ai dit, la femme est plus proche de la vie, l'homme a plus une forme de distanciation. Cette distanciation fait que la femme est moins apte à la généralisation, au conceptuel, tandis que l'homme, elle est plus apte à l'intuition immédiate pour le particulier. Elle porte en elle un enfant précieux. Mais l'homme terrorisera avec le recul et est capable plus de conceptualisation et de généralisation. Très bien. D'une certaine manière, le raisonnement féminin est plus un raisonnement empathique et intuitif. On porte la vie. On pourrait dire un raisonnement à chaud. Je continue. Tandis que l'homme, ça c'est pour la femme, tandis que pour l'homme, il y a un raisonnement beaucoup plus à froid, conceptualisé, avec du recul, généraliste. Nous voyons bien qu'on a besoin des deux, parce qu'un raisonnement à froid pur est inhumain, mais un raisonnement empathique pur risquerait de nous faire perdre le cap du bien commun, de la généralisation et de ses contraintes, ce qui est le génie humain. Très bien. L'homme a un pouvoir. Il a un pouvoir. Messieurs, soyez fiers, vous avez du pouvoir. Et c'est vrai, au niveau de la force, au niveau de ce recul abstractif, cette conceptualisation, cette capacité de se construire plus fortement dans la culture, c'est un pouvoir. Mais c'est un pouvoir second par rapport à l'essentiel. L'essentiel étant la vie, l'accueil inconditionnel de la vie, et tout pouvoir est référé à l'être, à la vie. Ainsi, la puissance de l'homme, c'est pour faire croître ou défendre ou éduquer la vie. Donc on voit bien que l'homme a ce pouvoir, mais qu'il n'est que second. Quelque part, le pouvoir primordial, c'est l'accueil inconditionnel de la vie qu'a la femme. Et j'ajoute tout de suite, la femme est la boussole de l'homme. Parce que la femme montre l'être. La femme, intuitivement, lui montre l'être. Ce qui fait que la femme, quand elle ne défend pas l'être, quand elle perd le sens de sa maternité et l'accueil inconditionnel de la vie, qui est l'être, l'homme est déboussolé parce qu'il n'est plus capable de canaliser sa force. Si celle qui est plus aimantée, qui sent mieux, qui perçoit mieux les choses dans l'être, ne guide pas l'homme là-dessus, l'homme risque de perdre sa puissance ou de la désordonner et pourra des choses mauvaises. Donc l'homme est toujours à l'écoute de celle qui entend mieux, mais l'homme a ce pouvoir réel. Alors ça, on est d'accord. La question, on verra, c'est comment les femmes peuvent aussi se mettre sous ce pouvoir. Toute la question, parce qu'aujourd'hui, la femme a tendance à ne pas vouloir se mettre sous le pouvoir de l'homme. Parce que l'homme est plus abstractif, et il ne sent pas tout de suite l'être, à la différence de la femme, qui est plus intuitif. C'est pas vrai. Vous avez des artistes, des philosophes qui sentent ce que je dis là. Ou même tout homme sensé, un bon agriculteur, peut sentir l'être. Mais voyez bien, la femme, parce qu'elle porte la vie, est plus sensible intuitivement à ces questions-là. Très bien. La femme, du coup, sa construction, pourquoi je fais en pendant, hein, je compare. La femme va tout de suite se référer à l'être. Donc son activité sera toujours une activité relative, ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Dans l'histoire de l'humanité, vous voyez peu de femmes qui sacrifient tout au nom d'une cause. Mais un homme, oui. Parce qu'une femme, à un moment donné, fait passer à un moment donné ses enfants, sa famille en premier, parce qu'elle est référée à l'être. L'homme, vous lui dites, il faut monter sur la lune, il faut faire telle chose, il part en conquête. Il peut se sacrifier pour une cause. Et quelque part, il est absolu dans ce qu'il fait. S'il est déréglé, s'il n'est pas orienté à l'être, il peut se perdre. Mais c'est sa puissance aussi, cette puissance de se donner à fond et de mourir pour cela. La femme ne mourra que pour protéger l'être, mais sinon elle ne mourra pas. L'homme peut se sacrifier pour cela. Donc il a besoin d'être canalisé. Ce qui fait que l'homme, dans la pulsion masculine, je pense qu'il est profondément vrai, il y a cette dimension plus forte de l'aventurier, du guerrier, des défis. Ce qui fait que quand je rencontre des garçons, par rapport aux filles, les questions que se posent les filles dans le discernement vocationnel, c'est « Est-ce que je suis aimable ?» fondamentalement. « Est-ce qu'un homme pourra m'aimer ? Est-ce que Jésus pourra m'aimer ? Et est-ce que je pourrai être mère ?» La maternité, l'accueil de l'être, et est-ce que je suis aimable ? Le garçon, ce n'est pas du tout les mêmes questions, généralement. Les questions du garçon, c'est « Est-ce que je suis capable de dépasser, d'être fort ?» Vous voulez tuer un gars, vous lui dites qu'il est faible. Vous lui dites qu'il n'est pas capable. Ce potentiel de conquête est détruit. Vous l'avez réduit à rien. Généralement, des fois aussi, il peut arriver que les dames ne savent pas canaliser la force, la puissance de leur époux. Vous voyez, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme qui a aidé, qui a guidé intuitivement l'orientation de la force de son époux ou de tel homme. C'est vrai. Mais le risque, c'est de castrer la force de l'homme, de le materner ou de le domestiquer de manière mauvaise. Vous voyez ? En fait, non, l'homme est plus grand. Et là, je prendrai Brel, qui a senti ça, mais à mon avis, il a tort sur un autre point, on y viendra, c'est la fidélisation de la puissance masculine. Mais il a raison sur un truc, il dit, excusez-moi, ça paraît grossier, c'est qu'il dit à un moment donné pourquoi, enfin, il raconte sa vie dans une vidéo sur YouTube, et à un moment donné, il parle des dames, il dit, oui, ce qu'elles veulent, c'est qu'on leur ponde un œuf, et après l'homme, il a sa petite voiture, sa petite maison, il est content, en fait, c'est pas la vie. Qu'est-ce que dit Brel ? Il dit quelque chose de vrai, à mon avis, c'est qu'il a senti que l'homme était fait pour une forme d'aventure, d'absolu, de conquête, de défi. Et que lui, il y voyait, il a tort, dans l'idée familiale, une sorte de restriction à cet absolu, cette castration. Il a tort, mais il a raison de dire qu'il y a cette puissance. C'est tellement vrai qu'un Anglais, dans le monde anglophone, là, américain, il y a eu ce fameux livre protestant « Indomptable » qui s'appuie exactement sur ces clichés du guerrier, de l'homme qui doit dépasser. Voilà cette quête de virilité qui s'accomplit dans un dépassement. C'est vrai. Vous voyez, c'est pour ça que la vertu de courage, vous voyez, qu'un homme soit laid, c'est laid. Qu'une femme soit laide, c'est plus laid qu'un homme qui soit laid. Qu'un homme soit sale, c'est sale. Qu'une femme soit très sale, c'est très, très sale. Vous voyez ? Parce qu'on attend que la femme soit belle, etc. Qu'un homme, une femme soit pas courageuse, c'est pas très courageux. Qu'un homme soit pas courageux, c'est catastrophique pour un homme. Parce qu'il a cet enjeu de dépassement, de guerrier. Voilà. Et ça, c'est dans l'être. Et donc, la question « suis-je capable ?» c'est « est-ce que je suis capable de conquête, de dépasser ma force, d'aller vers l'avant ?» Là où Brel a tort, je ne fais pas le procès de Brel, hein, parce que je pense que l'intuition est bonne, c'est que l'homme doit fidéliser sa puissance. L'homme doit fidéliser sa puissance. Donc il doit être à l'écoute de l'être. Et il doit savoir la canaliser. Or aujourd'hui, l'homme n'arrive pas à sa pleine maturité, hein, parce qu'il reste un adolescent. Jamais un homme. En partie dû à la féminisation. Mais pas que. Et d'un autre côté, l'homme n'arrive pas à fidéliser sa puissance, ce qui fait qu'il ne tient pas à son engagement. Il part sans arrêt dans d'autres conquêtes, il n'en a pas la force, il n'y arrive pas parce qu'il n'est pas structuré, mais en plus, il se dilapide. Donc il perd ce qu'il est. Donc l'enjeu, c'est de canaliser. Il est évident que dans toute vocation, on canalise cette force, on canalise son époux, il peut déployer ce qu'il est dans une vocation consacrée, sacerdotale, etc. Donc l'enjeu, c'est d'apprendre le sacrifice pour une cause. Pour l'homme, le sacrifice pour une cause qui va passer par la persévérance. J'ai dit qu'il était plus dur à un homme d'être homme qu'à une femme d'être femme. On pourrait dire que c'est caricatural, c'est un parti pris. Et vous êtes un homme, vous dites ça. Écoutez, je le pense aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'était avant, mais je le pense pour aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je vois des femmes qui intuitivement, même si ça peut être abîmé, sentent la maternité, sentent le désir d'enfant, sentent le désir de protection. Tous ces éléments, elles les ont. Quelque part, elles jouent la poupée depuis qu'elles sont petites, n'en déplaise au gender. Vous voyez ? Il y a cette idée-là. Tandis que pour l'homme, il a besoin d'étapes initiatiques pour lui dire « ça y est, mon gars, t'as atteint une étape. T'as su t'autonomiser, t'es capable. » Et il a besoin d'un père pour lui dire « t'es capable ». Le nombre de garçons qui n'ont pas eu un père qui leur a dit « t'es capable » fait qu'ils ont manque de confiance, ils ne franchissent pas l'étape. Voyez, un gars a besoin de s'affronter plus fortement qu'une femme. Et vous voyez cet élément-là de dépassement qui va prouver à l'homme qu'il a acquis, qu'il a conquéri. C'est beaucoup plus culturel, c'est ça le problème. La femme, c'est beaucoup plus naturel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de culture, évidemment. Mais c'est dans les tripes qu'elle est femme. Sauf si elle est désorientée par rapport à l'être. Alors, à ce moment-là, elle n'est plus une boussole. Mais si l'homme, sa conquête se fait beaucoup plus au niveau culturel, parce qu'il ne porte pas la vie. Je vous ai dit, il est plus abstrait. Vous comprenez ce que je dis? Et donc, ces étapes, lui, sont plus des étapes culturelles initiatives. Il va falloir qu'il soit reconnu par ses pairs comme capable. C'est moins inné, c'est beaucoup plus acquis. Or aujourd'hui, on a enlevé le service militaire, voilà par exemple, plein de choses comme ça, ce qui fait que l'homme n'a pas d'étape initiatique très forte. Et pendant très longtemps, il peut rester un adolescent. Et c'est son drame. Il n'est pas reconnu fondamentalement comme capable. Et il dilapide son énergie, son pouvoir. Voyez ? L'épreuve est bonne pour l'homme, pour toute personne. Mais pour l'être humain masculin, il faut des épreuves, il faut des étapes initiatiques. C'est très important. Et là, le rôle du père vis-à-vis du fils est capital pour cette distanciation, pour cette mise à l'épreuve et pour pouvoir aider. Bon, là, je ne fais pas du christianisme, excusez-moi de le dire. Maintenant, je vais faire le parallèle avec notre foi chrétienne et parler de la tradition spirituelle. Un petit peu biblique et un petit peu spirituelle dans l'histoire de l'Église. Pour reprendre certains concepts, et pour vous montrer que ce que j'ai dit un petit peu au niveau physique est vrai au niveau spirituel parce que l'être humain est tout un. Vous avez vu que dans l'histoire biblique ou l'histoire de l'Église, les grandes apparitions, les grands messages surnaturels sont donnés à des femmes dans la majorité des cas. On peut y aller, la Vierge Marie, Marguerite Marie, Sœur Faustine, Thérèse d'Avila, etc. Qui a propagé l'Évangile ? Les hommes. Qui a propagé le message du cœur de Jésus que Marguerite Marie a eu? Jésus a dit aux Jésuites. C'est-à-dire qu'on voit bien que la femme a puissance de réception et l'homme a puissance d'émancipation, d'annonce, de propagation. En fait, si on en revient à cette histoire du verbe de la semence, la femme a la capacité d'accueillir la semence, d'accueillir la verbe, la parole de Dieu, le message. Et l'homme a ce pouvoir de propager plus facilement la parole. On en voit la distinction des vocations. La vocation apostolique est profondément à des convenances anthropologiques masculines. Et on va voir dans les détails. Par exemple, je prends des carmes. Les carmélites sont des cloîtrées. Elles ne font pas rien, elles font des choses. Mais elles exercent leur activité en particulier dans leur réceptivité. À vocation égale, un carme homme n'est jamais cloîtré à 100%. C'est du 2/3, 1/3. 2/3 cloîtré et 1/3 apostolique. Les seules vocations cloîtrées que vous avez, ce sont les chartreux. Sinon, les dominicains sont toujours apostoliques à la différence des femmes. Les carmes, c'est la même chose, etc. Parce que le génie masculin est un génie de l'annonce, beaucoup plus. Et du faire. Voyez, dans les ordres comparatifs, les femmes ont plus besoin de discuter. Il y a plus de récréation dans les ordres contemplatifs. Mais il y a beaucoup plus d'activités concrètes pour les hommes, sinon ils ne tiennent pas. Parce qu'on est dans le faire. Vous voyez ? Donc ce qui est vrai dans le faire, c'est vrai aussi dans la spiritualité. Vous voyez ? Et on va aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il y a des convenances anthropologiques pour que le prêtre soit un homme. C'est parce qu'il proclame la semence et qu'il y a une dimension de faire beaucoup plus grande. Sans le fait, eh bien c'est premier, le fait que le Christ ait choisi des hommes, etc., et que c'est le choix de Dieu, et que l'Église est épouse, féminine, et que c'est l'époux qui parle à l'épouse. Mais il y a cette idée aussi que c'est l'homme qui transmet la semence. Et que dans la spiritualité, vous voyez, dans la spiritualité de la femme, elle est épouse du Christ. L'homme, dans la spiritualité religieuse, il n'est pas époux du Christ. Il est ami de l'époux comme Jean-Baptiste, et il se sacrifie. Sacrifie. Le prêtre se sacrifie. Parce qu'on retrouve profondément cette nature masculine à se sacrifier pour une cause, à être canalisé. Et que la finalité, c'est l'être, c'est la vie divine ou la vie naturelle. Et que l'homme se sacrifie pour cela. Alors que la femme est beaucoup plus dans l'accueil de cela. la nourriture, voyez. Donc ça, c'est vrai au niveau spirituel, parce que ça avait des fondements humains. Malgré tout, l'homme, je disais, a été abîmé, parce que tous les conditionnements que j'avais dit au départ, et puis il y en a certainement d'autres, ont fait qu'on ne peut plus parler de la masculinité. Pourtant, inconditionnellement, les femmes continuent à rêver d'un homme, vraiment homme. On m'avait dit un jour, quand j'étais séminariste, cette belle parole qui a fait tout mon orgueil à cette époque. C'était pas pour moi, mais c'était, je ne sais plus quelle est cette actrice, c'était un prêtre qui disait qu'une actrice avait dit un jour, une chanteuse je crois, une chanteuse avait dit un jour qu'elle ne s'était pas mariée. Et les journalistes lui avaient posé la question, pourquoi vous n'êtes pas mariée ? Et elle avait dit, je n'ai pas rencontré d'hommes. Les seuls qui étaient des hommes, c'était des prêtres. Ça m'avait fait plaisir. Hélas. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette femme attendait vraiment un homme, mais elle n'en avait pas trouvé. Et vous avez quelque part, dans la culture contemporaine, des éléments où on attend les hommes. J'en ai cité trois. Le mythe qu'a incarné ce joueur de rugby, Chabal, qui a montré un peu cet aspect homme un peu très fort, mais que la gente féminine s'est retrouvée, inconditionnellement. Alors qu'on était dans la culture gender aseptisée, du jour au lendemain, cet homme très fort, un peu l'homme de Cro-Magnon, guerrier, qui se battait, mais gentil, au grand cœur, donc ça plaisait, tout le monde s'est dit « Ah ouais, c'est bien, inconditionnellement. » Parce que ça parlait au fond. Je prends un autre exemple, j'ai vu ça sur une série télévisée, là. Vous connaissez peut-être l'aventurier Mac Horn, qui fait des séries d'aventures où les gens vont dans le monde entier et marchent, des épreuves pas possibles. Et à une émission, le présentateur présente cet homme à d'autres personnes, et la femme de dire « Ça, c'est un homme !» Voilà, l'aventurier, le guerrier. Donc ça, c'est le mythe un peu, la caricature. Mais on voit bien qu'il y a cette attente. Et j'ai cité autre chose, c'est le film « Monsieur et Madame Smith », je pense, avec Brad Pitt et Angelina Jolie. À un moment donné, elle dit, ils sont en train de se combattre, elle dit « Je suis en sécurité avec toi ». Ça, c'est profondément une parole féminine qui a compris le mystère masculin, c'est-à-dire il apporte par sa force la protection. Quelque chose de vrai. Cette force qui est canalisée. Bon, très bien. Eh bien, le problème pour la femme, c'est que l'homme, on voit bien, peut imposer son pouvoir et on tomberait dans un patriarcat dur. Il pourrait aussi abuser de ce pouvoir, et c'est tout ce qu'il y a dans les médias aujourd'hui. Mais l'enjeu, parce que la femme a un pouvoir premier d'accueil de vie inconditionnelle, c'est qu'elle découvre, elle consente un à sa faiblesse et qu'elle accueille la force, le pouvoir de l'homme dans son abstraction, son recul, sa force, comme une sécurité pour elle. En fait, l'enjeu, c'est que la femme accueille l'homme, et non que l'homme s'impose, mais que la femme l'accueille. Tant que la femme ne l'accueille pas, l'homme ne peut pas être pleinement ce qu'il est et donner ce qu'il est. Voyez ? Et donc, d'une certaine manière, il y a une maternisation, je ne sais pas si on le dit, des femmes qui veulent faire de leur mari comme un enfant, on les materne ou alors on les castre. Vous voyez ça dans la pastorale, vous voyez ça un peu partout. La difficulté pour la femme à accepter l'autorité de l'homme, sa gouvernance. J'emploie des mots, je vais rentrer dans quelque chose qui ne fait pas plaisir, désolé. C'est pour ça que mon conférence était critique. Éphésiens 5, femmes, soyez soumises à vos maris. L'Église ne commente jamais ce passage. Parce qu'on est très mal à l'aise. On sait que la catéchèse de Jean-Paul II dit vraiment qu'il y a une égalité hommes et femmes. Ça, c'est très clair. On appelle la sainteté qu'il y a une complémentarité. Tout ça est vrai. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que dans les convenances anthropologiques, dans tout ce qu'il est, le pouvoir de l'homme l'a amené, l'a rendu apte au gouvernement. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a choisi les hommes pour la fonction hiérarchique. C'est que ça correspondait parfaitement à l'être masculin. C'est pas pour rien que le gouvernement va si mal. C'est parce qu'il y a une féminisation du comportement terrible et que les hommes s'excusent d'être des hommes. Et le vrai enjeu, c'est non pas que l'homme impose sa loi, mais qu'il gouverne avec son charisme d'homme, sa grâce masculine d'homme, et que la femme reconnaisse ce don. Et comment ça passe ? Par cette capacité de recul, d'abstraction, de sens du bien commun et du sacrifice. Et la fragmentation des lois, l'hyper-spécification des lois, c'est en fait de l'empathique particulier. On veut ça pour ça, on veut ça. C'est le perdre du sens du bien commun. Et on a perdu le sens de l'homme. L'homme apporte le sens du bien commun. La généralisation, parce qu'il a du recul. Il peut poser un acte froid. Ah oui, mais il est froid, il est distant, il est dur. En fait, non, il est simplement homme. Il faut lui permettre d'être homme. Vous voyez, on sent ça aujourd'hui dans les comportements ecclésiaux, politiques, familiaux, de société, la perte du repère masculin. Cette capacité à donner cette parole de vérité qui grandit, qui n'est pas froide, mais qui se situe sur le raisonné. Avec moins d'empathie, c'est vrai, il ne faut pas qu'il n'y en ait plus du tout, c'est pour ça que l'homme, la femme a besoin d'aider, sinon l'homme devient un dictateur. Mais toujours est-il sa structure. Ce qui fait qu'on a parfois des gélatines dans les jeunes. Ils seront longtemps sur le domaine de l'empathique et ne passent pas à un moment donné sur le sens du bien commun et le sens du sacrifice parce qu'ils n'ont pas reçu une structuration masculine assez forte. Ça, je le sens chez les garçons, dans les cycles de discernement. Nous pouvons contempler le Christ. Et souvent, nous ne l'avons peut-être pas assez contemplé, nous les hommes, la virilité du Christ. Sa capacité à dire des paroles qui ne plaisent pas, ça ne veut pas dire que être masculin, c'est de dire des choses qui ne plaisent pas. Mais ce que je veux dire, cette capacité à encaisser les coups, à se dépasser pour une cause, à éduquer dans la vérité et la charité, mais pas l'un sans l'autre. Donc cette dimension raisonnée, ce sens de l'effort, de l'abnégation. Et c'est vrai qu'on me faisait cette remarque, parfois notre pastorale et notre spiritualité est trop féminine. Les hommes ne se retrouvent pas. Et vous voyez, c'est tellement contaminé que quand on a fait une journée de pastorale pour l'homme, les dames sont venues nous voir en disant « Pourquoi vous faites ça ?» Il a fallu qu'on dise « Mais madame, mesdames, vous en avez déjà 3 par an pour vous !» Parce que c'était acté. Tout le monde faisait pour les femmes, mais les hommes surtout pas. Je vous dis, il faut rebalancer. Or, si vous voulez, la crise de l'homme est plus grave que la crise de la femme. La femme a été instrumentalisée, la crise de la vie est première, fondamentale, anthropologique. Mais la crise de l'homme fait que ça ne fait pas une société durable. Ça fait des légumes, ça fait des mollusques. Si on veut des personnes qui tiennent debout et qui durent, il faut structurer au niveau de la masculinité. Voyez, c'est un vrai enjeu. J'ai parlé de l'homme, je vais parler maintenant de la femme. Du père, excusez-moi. Quel rapport avec l'enseignement. Excusez-moi du Père. Donc c'est le deuxième point. Alors tout d'abord, Dieu est Père et est source de toute paternité. C'est dans l'Écriture. Il est modèle et source de toute paternité. Aucune paternité ici-bas n'est l'absolu, c'est Dieu. C'est très important. Quand nous disons que Dieu est Père, qu'est-ce que nous disons théologiquement? Nous ne disons pas qu'il est mâle. M-A accent circonflexe, L-E. Nous ne disons pas qu'il est mâle, nous disons qu'il est source, principe, et qu'il est donateur de vie sous le mode de l'engendrement. Voilà la théologie trinitaire. Très bien. Et que lui-même, il est l'inengendré, le sans-principe. Le Père est le principe du Fils et de l'Esprit. L'Esprit a comme principe le Père et le Fils. Très bien. Mais le Père n'a pas de principe. Voilà. Très bien. Ça, pour ceux qui font un peu de théologie, vous le savez. Ce nom Père n'est pas arbitraire, il est révélé. On ne peut pas le changer pour Mère. Il a été donné par Dieu comme révélation. Et Dieu est Père, on pourrait dire essentiellement. Pour un homme, il est d'abord fils, il grandit, il est frère avec d'autres, dans sa famille ou plus large, et un jour il est Père. Il y a une forme de croissance. Dieu est Père toujours. Et il exerce sans cesse l'acte d'engendrement. Vous voyez, une femme qu'engendre, c'est douloureux, mais ça dure un temps. Vous imaginez, Dieu, c'est éternel et c'est sans cesse. Parce que son activité d'engendrement était permanente. Très bien. Donc on peut dire, il est la source de toute paternité. Éternellement, il est Père. Très bien. Dans l'Ancien Testament, Dieu est Père. Pas au sens chrétien du terme, mais au sens d'une dimension large, parce qu'il est éducateur, il donne la loi, cette distanciation. Qui donne la loi, et aussi parce qu'il est fidèle. Il éduque fidèlement Israël dans sa pédagogie et il est père des pauvres, il prend soin. Voilà des éléments pour dire qu'Israël considérait que Dieu était père au sens de ses attributs seconds. Ce n'est que dans le Nouveau Testament où nous découvrons que Dieu est Père au sens essentiellement parce qu'une des trois personnes de la Trinité est Père. Que Père ? Très bien. Le mot Père, on pourrait dire, se décline de trois manières, de quatre manières. En théologie, on appelle ça analogique. De manière très forte, jusqu'à des, on ne pourrait pas dire des métaphores, mais des éléments secondaires. La première, Dieu exerce sa paternité de manière absolue et unique, et jamais comme avec les autres êtres, avec son Fils, unique, éternel. Dieu est Père avec le Fils, d'une manière unique, parce que cette relation de paternité est une relation en Dieu, c'est divin. Dieu est Père des chrétiens, parce que nous recevons cette relation de paternité qu'a Dieu le Père avec le Fils, Dieu le Fils, par adoption en Jésus-Christ. Ça fait deuxième chose. Dieu est Père aussi de tous les hommes. Troisième dimension. Pas au sens de la vie divine, mais de la nature. Et enfin, Dieu est Père de toute créature. Parce qu'il est la source de la vie, ce qui faisait dire à saint François d'Assise, frère soleil, sœur mort, etc. Parce que l'enjeu, c'est que tous ces êtres vivants viennent de Dieu qui est Père. Donc Dieu est Père au sens de source de tout. Très bien. Et ça fait dire que quand on veut contempler sa propre paternité, ça nous renvoie à contempler le Père. Ah mais comment on fait? Parce que source de tout, c'est un peu loin. Eh bien, nous avons en Jésus-Christ des éléments pour comprendre comment être Père. Tout d'abord parce que Jésus-Christ est le visage du Père, dans les paroles et dans les actes. Il a dit en Jean 14, 9, « Qui me voit, voit le Père ». Lui-même a employé des métaphores pour nous faire comprendre le comportement du Père en Luc, par exemple, chapitre 15, le retour du Fils prodigue, qu'on aurait pu appeler la parabole aussi du Père miséricordieux. Cela nous enseigne sur quelque chose d'important, c'est qu'un Père donne toujours plus qu'il ne reçoit. C'est déjà important. Un Père donne toujours plus qu'il ne reçoit, parce qu'il est appelé à donner en premier. Le Christ lui-même est Père. Il le dira, Paul aussi est Père. Saint Joseph est Père adoptif. On va y venir sur cette question de la paternité. Voilà, notre paternité. Le Christ est Père parce qu'il éduque ses apôtres et ses disciples et il leur dira, mes petits-enfants. De la même manière, Saint Paul dira qu'il engendre dans la douleur. Mais est-ce que le Seigneur, dans son incarnation, a eu des pères, finalement? Et est-ce qu'on peut légitimement appeler ça père, puisqu'un jour le Seigneur a dit « n'appelez personne père ». Telle est la question qu'on nous pose souvent à nous, prêtres, mais qu'on pourrait aussi poser aux parents, aux pères de famille, et que aussi, que peut-être une objection, je pense, protestante. En réalité, ce qu'il faut le dire, c'est que, au sens fort du terme, seul Dieu est père, si on l'a bien compris, qui est source de toute paternité, source de vie, source de grâce. Mais il y a des paternités secondes que Dieu a voulu pour elle-même. Les paternités secondes, le Christ en a eu une en ayant un père adoptif. Il a voulu que dans la race humaine, il y ait une transmission et il y ait des parents et des pères. Et Dieu veut passer par là. Et c'est tellement vrai, c'est que des hommes ou des femmes qui ont eu par exemple une histoire compliquée avec leur père ont du mal à voir le Père du ciel. Ils sont blessés. Inversement, des fois, une bonne image du Père du ciel peut restaurer une paternité humaine blessée. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre les deux, parce que l'un montre l'autre. La paternité ici-bas montre une paternité plus grande. Voilà. Elle participe comme une médiation, comme une cause seconde, mais elle n'est pas le terme. La paternité du ciel est le terme. Donc un bon père, qu'il soit spirituel ou humain, a pour but d'exercer son autorité en vue de montrer le Père comme un passage, mais assumé. Quelque part, Dieu le Père dit à chaque père, « Ayez confiance, j'ai besoin de vous. Ton rôle est essentiel. Ton rôle est essentiel. Je ne ferai pas sans toi. » Mais ce n'est pas un terme absolu. Le terme absolu, c'est le Père du ciel. Et je vais faire un tout petit peu de pub, n'oubliez pas que les prêtres exercent leur paternité de cette manière-là. Et si on voulait, de manière éminente, la paternité spirituelle étant plus élevée que la paternité biologique, ils sont plus pères encore que les pères de famille. C'est que souvent on inverse les choses, mais c'est un fait. C'est un fait. Ça dure plus longtemps. Vous voyez ? Il y a quelque chose de vrai là-dedans, qu'il faut entendre. Mais ça, toute paternité est belle, hein, qu'on soit d'accord là-dessus. Mais je voudrais redire ça parce que c'est un instrument plus élevé, parce que c'est de l'ordre de la grâce, pas de l'ordre de la nature. Un père, je cite Jean-Paul II, qui parlait aux prêtres, mais qui parle aussi aux pères, aux éducateurs. Dans une lettre aux prêtres, il leur dit ça. Soyez bons, soyez fidèles, soyez fermes. Soyez bons, soyez fidèles, soyez fermes. Un père est bon, miséricordieux, il a plus à donner qu'à recevoir. Il a à être fidèle, fidèle à sa parole, l'engagement, la canalisation de la force, le sacrifice vers un but. Mais voyez aussi, le Père a été fidèle. Si lui, nous ne sommes pas fidèles, lui, il est fidèle, nous dit l'Écriture. Israël a fait expérimenter la fidélité de Dieu, qui est Père, par la fidélité aux alliances, que lui a fait, même si Israël n'a pas été fidèle. Mais ferme aussi. Il est dit dans l'Écriture, j'ai noté aussi, ce verset, chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, verset 5, « Dieu te reprend et te châtie. Il corrige. » Ça, c'est un bon éducateur. Ferme. Voyez ? Mais c'est une parole froide, c'est dur. Ça, c'est un manque de masculinité. On a besoin de fermeté. L'éducateur, vous voyez ? Donc ça, l'Écriture nous y invite, dans le bon sens du terme. Le père, quand on est père de famille, je pourrais dire, je ne sais pas si c'est les pères de l'Église, le père Lubeau ou le père Bruno vous le diront, mais on pourrait dire qu'un père de famille, c'est l'évêque, c'est l'épiscope de sa famille. C'est le chef. Il a une dimension de gouvernement. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, ne dis pas « je suis chef », fais-le. Ne dis pas « je suis chef », fais-le. Fais-le en montrant l'exemple. L'étymologie de l'autorité, c'est qui fait croître. Ça invite à être exemplaire. Qui me voit, voit le Père. Jésus montrait le Père, montrait l'autorité. Il était exemplaire, il faisait croître. Ses gestes, sa parole posée. C'est très important. Voilà ce que je voulais vous dire sur être homme et être père. Être père, ça se conquiert. Mais je voudrais redire aux hommes que nous avons cette grâce, ce pouvoir de la nature et surnaturellement élevé dans le mariage et dans la vie religieuse ou sacerdotale. Et il faut l'exercer à bon escient, mais il ne faut pas démissionner. Il manquera beaucoup si l'homme et le père n'exercent pas sa vocation. Il manquera de la structuration, de la durée. Voilà. L'homme n'aura pas confiance en lui-même dans la vie si le père n'est pas là. Donc je vous invite à ne pas démissionner et je rajouterai quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on a été un mauvais enfant ou un mauvais frère qu'on ne peut pas être un bon père. Parce que Dieu choisit par miséricorde et c'est parfois une miséricorde que de pouvoir donner les enseignements que soi-même on n'a pas vécu parce que Dieu nous rachète ainsi. Donc il faut le faire. Ça nous bonifie. Amen.